11h40. À New York, April avait enfilé une jupe et un top 1W, rose indigo. Toutes ses copines portaient le même, de toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Elles allaient se faire un selfie d'enfer sur la nouvelle Babel. La téléportation serait ouverte dans moins d'une minute. Le plus grand kiff de sa vie, depuis le concert des Dragonfly dans la savane kenyane près de Nairobi, 150 000 personnes la semaine dernière. 11h40. À Bucarest, Michaela habillait ses quatre enfants, Dorine, Lorena, Timmy et Bia. Tous portaient le t-shirt de Yuki la souris. Impossible de leur faire enfiler autre chose. Elle emporterait avec elle, sur la nouvelle Babel, le portrait de Georgiana et Nathanaël, sa grand-mère et son grand-père, dans leur cadre de verre. Ils étaient encore vivants lors de la première téléportation. Ses parents les rejoignaient à Tristan d'Acunha. Quatre générations réunies, ce serait une belle cérémonie. Lorena et Bia, les jumelles, étaient si excitées, impossible de les coiffer. À l'école, depuis des semaines, on ne leur parlait que de cette journée. Ce serait leur premier grand souvenir en famille, en attendant celui à Disneyland Paris, dans 11 ans exactement. 11h40. Gabrielle était à la bourre, en slip, dans son lit, une cabane sous la canopée, vue sur l'Amazonie. « Allez !» fit Clara. « Ça ne durera pas plus d'une minute. On enfile un truc, on se téléporte sur cette île, on fait coucou à tout le monde, on serre quelques mains et on revient. »« Ah, fais chier ! C'est un acte citoyen, bordel ! C'est comme voter sur l'Ecclésia ! Ça te prendra une minute ! Une minute de ta vie ! Connerie ! Tout le monde, toute l'humanité y sera ! Justement, ma chérie, on ferait mieux de profiter que les moutons sont occupés pour avoir le Fujiyama, les chutes du Niagara ou le lac Tanganyika, rien que toi et moi !» « Merde, Gabi, on n'a pas le choix, il faut en être. Personne n'a jamais connu ça. 10 milliards de personnes au même endroit. » « Vu comme ça, c'est sûr, ça fait rêver. Vivement qu'on puisse se téléporter sur Pluton, tiens. Alors, tu viens ?» Gabrielle attrapa un pantalon de toile troué et un t-shirt déchiré accroché à une branche de manguier et soupira. « J'arrive. Bon, faut mettre une cravate, tu crois ?» 11h40. « Qu'allez-vous faire de moi, Nemrod ? Me laisser mourir ici ? Me balancer dans la mer Noire ? Appeler Victor Cap pour qu'il m'achève ?» Nemrod ajustait sa cravate dans le reflet du balancier de l'horloge. « Vous avez choisi, alors ?» regretta le président. « Dommage. Le monde libre et pacifique aurait eu besoin d'une personne telle que vous. » Il avait enfilé sa veste, sans doute celle avec laquelle il avait enregistré sa déclaration officielle. « Je suis bien d'accord avec vous !» eut la force de plaisanter Micha en redressant autant qu'elle le pouvait son dos contre l'oreiller. « J'aime plus que tout ce monde de liberté et de paix. Mais vous allez y foutre un sacré bordel. Je connais Pangaea. Même pour les beaux yeux de son papa, elle ne violera pas l'article 4. Votre projet Pichipoy va se transformer en fiasco. Vous allez vous retrouver avec 300 assignés éparpillés dans la nature à récupérer. Et une explosion nucléaire, même sur une île déserte, à gérer. » Nemrod adressa un sourire triste à l'horloge, sans se retourner. « Vous vous trompez, capitaine Kim. Pangaea a toujours eu confiance en moi, toujours. Elle a sacrifié sa vie pour moi et pour ce monde libre. Elle n'hésitera pas. Et puisque vous avez eu le privilège de côtoyer ma fille, je peux vous avouer qu'au-delà de la menace terroriste, un autre argument pèsera. » Micha ne le laissa pas finir. L'horloge tournait. Le faire parler, parler, parler. « Pangaea est condamnée !» fit la capitaine coréenne. « Elle va mourir !» Nemrod s'étonna. « Elle vous l'a dit ?»« Elle, non. Valeria Everianov me l'a dit. » Nemrod hésita. Il lui restait une minute. Il s'efforça de parler plus vite. « Elle a raison, » confirma-t-il. Pangaea a contracté cette maladie dégénérative lors de son accident quand elle avait 10 ans. Elle s'est déclarée quelques mois après. Le diagnostic était sans appel. Pangaea ne survivrait qu'une 20aine d'années. J'ai préféré alors ne rien lui dire tant que les symptômes de la maladie n'étaient pas encore visibles. Elle s'est déclarée quelques mois après l'accident. Le diagnostic était alors sans appel. Micha repensa aux mots de Valeria Everianov à l'hôpital Sklodowska il y a quelques minutes. « Je n'ai pas revu Pangaea jusqu'à il y a 2 ans. Le diagnostic fut rapide, une version accélérée du syndrome de Hunter. Si on avait pu la diagnostiquer plus tôt, on aurait pu gagner des années, tenter des greffes, lutter. Nemrod connaissait la gravité de la maladie de sa fille, une maladie qui pouvait être soignée si elle avait été traitée plus tôt. Il n'avait rien dit. Les dernières forces de Misha se trouvèrent décuplées. « Vous mentez, Nemrod! Vous mentez! Vous pouviez sauver Pangaea, mais vous l'avez laissé mourir comme un ordinateur, comme une machine qu'on laisse se périmer, qu'on remplace ensuite. De quoi avez-vous eu peur? Qu'elle ne prenne trop de pouvoir? Qu'elle échappe un jour à votre contrôle? Vous avez préféré la sacrifier, elle aussi. Votre fille! Votre propre fille !»
11h40. Artem se recula encore dans le fauteuil du salon, sans cesser de surveiller Cap face à lui, des PC posés entre eux. Pile au milieu. Un jeu. Un duel. Victor Cap n'avait qu'à se pencher pour le saisir. De sa seule main valide, s'il était rapide. Sauf que Cap n'était pas si naïf. Le tueur flairait le piège, se méfiait, surveillait la lame de son santoku. Cap n'était pas si naïf. Le commandant fut soudain saisi par une évidence. Le récit du tueur comportait une étrange incohérence. Sans bouger d'un centimètre, il fixa Cap dans les yeux.
« Quelque chose ne colle pas dans votre histoire. Pourquoi avoir fait confiance au président ? Cette histoire de contrat, de remise de peine n'a aucun sens. Vous vous doutiez que le président n'hésiterait pas à vous sacrifier, à faire passer l'intérêt de l'humanité avant vous. Son discours n'a jamais varié. »
Le tueur réagit. Sa main valide se crispa contre son poignet mutilé.
« Non ! Vous vous trompez ! J'avais confiance en lui, et en lui plus qu'en n'importe qui. Il y a longtemps, il m'a tendu la main. Il a été le seul parmi les 197 députés du Congrès qui m'ont condamné. »
Cap prit une profonde respiration.
L'accident d'Ayers Rock en 2063 était vraiment un accident. Personne ne m'a cru à l'époque. Tout le monde a estimé que j'avais volontairement pulvérisé 371 terriens. Seul Galileo Nemrod m'a soutenu. Il m'a proposé un contrat, un premier contrat. Et en échange, je pouvais rester en semi-liberté dans ce village de Kolmanskop, pas dans une prison de 10 mètres carrés.
La voix d'Artem baissa d'une octave. Quelque chose dérapait, il le sentait. Derrière lui, Cléophée s'était levée.
« Quel était ce premier contrat ?» demanda le policier.
Cap répondit presque distraitement, comme s'il évoquait un vieux souvenir quasiment oublié.
« Tuer deux pauvres agriculteurs, un couple qui habitait la banlieue de Coimbatore en Inde du Sud.
Pourquoi ?» Cap hésita à parler. Il sembla peser ce qu'il risquait, puis enfin se lança.
« D'après ce que j'ai compris, ils voulaient récupérer leur fille. C'était l'enfant le plus doué de toute sa génération, une gamine de 5 ans qui explosait tous les tests à l'école, une sorte de nouvel Einstein, un cerveau comme il y en a un tous les 100 ans. Nemrod la voulait auprès de lui pour la former, la contrôler, pour développer avec elle la base de données des déplacements mondiaux dans...
« Dans l'intérêt de l'humanité », murmura pour la première fois Cléo.
11h44. « J'aime Pangaea ! » cria Nemrod. « Vous ne pouvez pas comprendre. J'éprouve pour elle une admiration sans bornes, sans limites. Jamais aucune femme sur cette terre n'a fait plus qu'elle pour
l'humanité, » compléta Misha. Le président prit appui sur l'un des barreaux du lit à baldaquin. Il dominait Misha de toute sa hauteur.
« Exactement ! L'intelligence de Pangaea était une chance unique. Je le savais en l'adoptant. Je devais l'aimer, mais garder à l'esprit qu'elle ne m'appartenait pas, que son destin était plus grand que mes sentiments, que je n'étais là que pour l'aider à réaliser son œuvre. Je le savais en la choisissant parmi les autres enfants surdoués qui n'avaient pas le quart de son potentiel. Je le savais en me débarrassant de ses parents naturels. Je ne devais pas m'attacher à elle. Je peux vous avouer ce que je n'ai jamais avoué à personne, capitaine Kim. Bien entendu, je n'ai jamais souhaité son accident de téléportation au point Nemo. Je m'en suis voulu toute ma vie. Pangaea n'avait que 10 ans. Elle avait pris des risques insensés pour que je sois fier d'elle. Mais j'assume cette culpabilité, car cet accident qui l'a rendue paraplégique a été une grande chance, une très grande chance pour l'humanité. »
Misha retrouva une force insoupçonnée.
Elle parvint presque à s'asseoir sur son lit et à cracher. « Vous êtes un monstre !»«
Non ! Pangaea aime plus que tout cette terre. Elle peut être fière. Quand elle mourra, elle en sera à jamais l'une des plus grandes figures, au même titre que Marie Curie, Newton, Copernic, Archimède. Moi, je ne suis qu'un politicien obscur. Je resterai dans l'ombre. Ni elle, ni personne ne saura jamais quel rôle j'ai joué.
Si. Elle le sait.
Quoi ?
Nemrod regarda avec inquiétude le cadran de l'horloge. Il estima qu'il lui restait encore quelques secondes. Ses deux mains empoignèrent les barreaux du lit.
« Elle le sait !» répéta Misha défiant le président du regard.
Galiléo paraissait hors de lui.
« Pourquoi dites-vous ça ?»
Misha se redressa autant qu'elle le put, tira au maximum sur les cordons de ses perfusions et lentement ouvrit sa chemise.
« Babou Diop, vous vous souvenez ? Ce lieutenant que vous avez fait assassiner m'a enseigné quelques trucs. Des vieux trucs de vieux flics, oubliés. Incroyablement efficaces pourtant. Il me répétait souvent que la téléportation humaine n'était qu'une étape insignifiante de l'histoire du monde, pas plus importante qu'Internet il y a 100 ans, ou la télévision encore avant, ou la radio. Toutes ces innovations, selon lui, n'étaient au fond que les produits dérivés d'une seule et unique invention, vieille de plus de 300 ans. Une invention toute bête. Une ficelle et deux gobelets suffisent. Le téléphone. La première fois que l'être humain a eu la possibilité d'être à la fois ici et ailleurs.
Nemrod empoigna la capitaine par le col de la chemise. Deux perfusions se rompirent. Un liquide poisseux se répandit sur le lit. Derrière eux, le balancier de cuivre s'en moquait. L'horloge tournait. Dans une minute, l'opération Nouvelle Babel commencerait si personne ne l'arrêtait. Dans quelques minutes, une bombe ferait exploser l'île vers laquelle l'humanité entière convergeait.
« Qu'est-ce que tu cherches à me dire, petite fouineuse ?»
Les mains du président remontèrent jusqu'au cou de la jeune capitaine. Misha ne se débattit pas. Immobile, fragile, assise. Elle se contenta d'ouvrir complètement sa chemise. Elle ne portait rien dessous, à l'exception collée sur son sein droit, blanc et plat, d'un petit téléphone portable. Un modèle très ancien.
« Pangaea nous écoute, Galiléo. Elle nous écoute depuis le début. »
L'instant suivant, ils disparurent.
11h45. « Vous savez tout maintenant, » dit Victor Cap. « Vous en ferez ce que vous voulez. »
La Nouvelle Babel venait officiellement de commencer, pour atteindre son apogée à midi. L'île de Tristan d'Acunha devait déjà s'enfoncer de quelques centimètres supplémentaires dans l'océan sous le poids des milliards de terriens.
« Il est maintenant trop tard pour tout arrêter, » conclut Cap. « Pour ma part, je n'ai aucun regret. »
Il ferma les yeux, regarda successivement Artem et Cléo comme si la partie était terminée. Ses muscles, la tension parurent se relâcher, et soudain il se jeta en avant pour saisir le TPC. Artem avait anticipé. Dans le même mouvement, il lança son couteau. Le Santoku traversa le maître devant lui et alla se planter dans le canapé qu'occupait le tueur la seconde auparavant. Plus aucune trace de Victor Cap. Le tueur avait été plus rapide. Cléo s'avança près de la table où l'instant d'avant était encore posé le TPC, avec prudence, comme si elle s'attendait à se cogner au corps invisible du tueur. L'institutrice observa le canapé, le couteau planté dans le velours épais, puis se tourna vers le commandant. Elle semblait rassurée que le poignard n'était ventré que de la mousse acrylique, comme soulagée de ne pas avoir assisté en direct à une nouvelle exécution, de ne pas avoir à enjamber un nouveau cadavre. Elle fixa le commandant Artem Akinis avec tendresse. Elle avait aimé sa maladresse, son manque de réflexe. Elle en avait assez des super-héros. Même si Victor Cap pouvait ressurgir n'importe où, n'importe quand. Le commandant se leva. Il s'avança vers Cléo. Désarmée, désolée. Elle en fit de même. Sans réfléchir, comme s'il s'agissait du geste le plus naturel, qu'il n'y en avait aucun autre à faire, ils s'approchèrent encore, jusqu'à ce que leurs mains se rejoignent. Cléo se hissa sur la pointe des pieds. Artem la serra dans ses bras comme si sa vie en dépendait,
Alors, sans qu'aucun des deux ne l'ait décidé, sans qu'ils aient même l'impression de se séparer, leurs corps se désintégrèrent.